Bon mercredi les amis, on est le 12 août 2026, 17 degrés sur Québec. Ça pourrait monter le mercure aujourd'hui jusqu'à 23, avec humidex, température possible ressentie de 28. Ce soir, cette nuit, partiellement nuageux, risque d'orage. Donc profitons du beau temps pour une bonne partie de la journée, parce qu'après ça, ben, c'est les nuages et la pluie qui nous guettent. Demain jeudi, jour de paie, ce sera généralement nuageux avec 60% de probabilité d'averse, risque d'orage en après-midi avec un max de 22. Et vendredi, ben, ce sera une belle journée ensoleillée avec un maximum de 23. 418-971-1021, 418-971-1021, vous avez des choses à nous dire. Max?
On a seulement deux points un petit peu plus chaud en 4 sud, hauteur de la 40 et la 20 dans les deux directions, hauteur Taniata.
L'ex-enquêteur au service de police de la Ville de Québec va être avec nous dans les prochaines secondes. Plusieurs sujets abordés avec lui, mais avant tout, un article de la presse ce matin qui en a surpris plus d'un.
Oui, on revient sur la fusillade du 22 juin dernier dans Côte-des-Neiges à Montréal. Puis ce qu'on nous dit, c'est que la policière du SPVM qui avait été grièvement blessée, contrairement à l'idée qu'on s'était à peu près toute faite...
Ben, contrairement à ce qu'on voyait sur les images...
Là. Où on pensait voir ça en effet, n'aurait jamais tiré sur le citoyen qui a malheureusement trouvé la mort. C'est des sources qui s'appuient notamment sur les analyses menées par le laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale pour donner ces infos-là anonymement à la presse. Une des sources qui dit hey, les projectiles qui ont atteint la victime sont tous du calibre utilisé par le tireur. La victime, Michel Misraï, qui aurait été atteint par au moins deux projectiles tirés par l'assaillant, dont un qui l'a touché à la tête et qui a été mortel, mais c'est ça. Ce qu'on retient, là, c'est vraiment, on nous dit, la policière, contrairement à ce qu'on pensait tout voir, a jamais tiré sur le gars.
Roger Ferland, je m'excuse.
Yannick, quelle preuve d'humilité, mon gars.
Non, je recommencerai plus jamais.
C'était une perception qu'on pouvait tout avoir dans notre tête, c'est normal. C'était normal qu'elle braque son arme vers lui dans les circonstances, ouais. Mais l'action de le faire... Moi aussi, je suis vraiment quand même satisfait. Je te dis pas, j'avais entendu certaines échos à cet effet-là, mais je suis vraiment content du résultat final. Ouais. Même si, pour la policière, c'est quand même dramatique, puis je suis même pas sûr qu'elle va bien se rétablir de tout ça, parce que t'assistes à une fusillade, c'est autre chose dans la vie de quelqu'un.
Oui, puis la victime aussi qui a perdu la vie. T'sais, ce qui est important, c'est de savoir qui est-ce qui a tiré. Anyway, même si ça avait été la policière, jamais elle aurait pu être accusée. Dans cette situation-là, personne ne l'aurait condamné. Ça n'avait aucun sens. Mais c'est ça, petit geste d'humilité là, ce matin, quand j'ai vu l'article de Daniel Renault dans la presse, qui est un excellent journaliste d'enquête. Les balles correspondent à l'arme du suspect et non à l'arme de la policière. Et on a regardé encore, tu sais, à quel point on est difficile à convaincre. On a regardé encore les images ce matin. Puis crime, ça a vraiment de l'air de venir de l'arme de la policière. Pas besoin de te dire, Roger, que pour un gars comme toi, là, je peux te le dire, va pas sur les réseaux sociaux parce que la complosphère est partie, là, comme quoi on tente de cacher de l'information à la population. C'est des idioties actuellement qui s'écrivent sur les réseaux sociaux concernant cette affaire-là.
Puis ça, effectivement, t'exprimes un deuxième point. En ce moment, il y a tellement de gens qui n'ont pas la rigueur scientifique, la méthode scientifique. Quand on travaille, allez pas penser que les scientifiques au LSJML, là, ils vont sortir un faux rapport là-dessus. Même que très souvent, ils nous aident à retraquer toutes nos hypothèses, notre façon de travailler. C'est vraiment, c'est des gens impartiaux. C'est pour ça que c'est vraiment satisfaisant de comprendre que toutes les balles ont été analysées, tous les projectiles retrouvés ont été analysés, les traces, les plaies. Puis je peux te dire que si c'était une balle de 9 mm tirant par la policière, ben on le saurait puis on l'aurait à ce moment-là directement. Et ça serait également précisé. Mais c'est triste, il y aura toujours des gens, Yannick, qui vont faire ça en ce moment puis qui croient n'importe quoi. Non, entre toi et moi, je n'ai même pas une minute à perdre d'aller chez les médias à maman à ce matin.
Hier, Fadi Daguerre était en conférence de presse. Max va nous rapporter la nouvelle dans les prochaines secondes. Juste avant, juste mettre les chiffres en perspective. Il y a en haute saison à Montréal, là, sur l'île, il y a 4500 policiers qui sont actifs. Actuellement, il y a 16 policiers qui sont visés par une enquête, 3 policiers qui sont suspendus. 4500 policiers actifs, 16 policiers visés par une enquête, 3 policiers suspendus. On n'est pas à à l'heure de voir un corps de police au grand complet être un corps de police raciste, là, il y a un certain pourcentage qui peuvent l'être, mais de là exagéré actuellement avec ces nouvelles-là, c'est un peu débile. Max, c'est quoi la nouvelle?
Ben, c'est qu'hier, le chef du SPVM, Fadi Daguerre, se présentait devant, j'allais dire les médias, mais en fait, c'était vraiment devant la population qu'on voulait se présenter pour prendre les questions, prendre les réactions. Fadi Daguerre, qui en a profiter pour présenter ses excuses concernant ces gestes-là qui auraient été commis par des agents du poste de police de quartier 39 à Montréal. C'est une centaine de personnes quand même qui étaient sur place. M. Daguerre qui a notamment abordé son désir d'opérer un changement de culture au sein du SPVM, mais en disant que ce ne serait pas un one-man show, qu'il fallait que le monde embarque. Puis il a été transparent, l'effet que c'est un changement qui serait long, qui serait difficile. Il dit un changement de culture, ça prend entre 7 et 10 ans. C'est peut-être pas ce que les gens veulent entendre. À juste titre, vous pensez que la situation aurait dû être corrigée il y a longtemps. Il le pense aussi, mais dit « je ne suis pas un magicien ». Mentionne qu'il y a un plan d'action de lutte au racisme qui doit être présenté par le SPVM d'ici l'automne pendant que les différentes enquêtes internes sont toujours en cours. Et on rappelle aussi là, que la mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, était absente hier, prétextant que ce n'était pas à elle de donner des réponses, mais bien au SPVM.
Ouais. C'est une bonne sortie de Fadi Daguerre. J'aurais aimé qu'il y ait des choses beaucoup plus concrètes. Puis hier, t'étais pas avec nous, mais c'est Soraya Ferrada Martinez qui nous en a sorti une bonne. Quand toute cette affaire-là est arrivée, elle a dit que son conjoint est noir et qu'il était régulièrement victime de racisme. Il y avait eu 5 ou 6 épisodes, là, c'est ce qu'elle avait mentionné, pour finalement se rendre compte que le gars, ben, il se promène avec le char de sa femme, puis il roule à des vitesses un peu trop excessives. Donc, quand il se fait coller, il se fait pas coller parce qu'il est noir, il se fait coller parce qu'il roule comme un fou sur la route, puis que le véhicule et pas à son nom. Elle en avait profité un peu pour faire passer son message, mais elle paraît très mal là, dans cette histoire-là aussi.
Elle paraît pas très bien. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis j'aime vraiment l'ouverture que tu as faite avec ça, Yannick, de parler qu'il y a 16 policiers en ce moment sous enquête et il y a 4500 policiers au SPVM. Tu sais, il faut comprendre un élément, puis je ferai un parallèle peut-être avec un sujet qui va suivre après. Les motards au Québec, là, à un moment donné, il a fallu qu'on aille vérifier pour savoir est-ce que c'est un motard criminalisé ou c'est un motard ordinaire qu'on a en avant de nous. C'est sûr, Yannick, tu te promènes en moto, tu t'es sûrement fait intercepter une ou deux fois à l'occasion pour dire « T'es qui, toi, là? Ah, t'es Monsieur Marceau, bonjour, un tel, parfait. Respecte les limites de vitesse, mets ton casque conforme, aie pas straight pipe sur ton bicycle, puis ça va être correct, ça va passer. » Mais là, vois-tu, on est dans un contexte où ce que on ne taxe qu'un côté en ce moment. C'est certain, Yannick, qu'il n'y a pas de fumée sans feu à Montréal. Là. En 85, j'étais là, Roland Bourgette, chef de police, avait sorti une vidéo, comme M. Daguerre a fait, pour s'adresser à tous les agents de SPVCUM à l'époque, pour leur dire, les gars, intégrez-vous, les communautés sont là, puis soyez pas racistes. Puis, il y avait un beau message à l'époque, mais ça fait 40 ans, là. Je pense qu'entre-temps, il y a peut-être eu des choses, mais il y a eu des choses des deux côtés. En ce moment, il y a des gens qui sont des criminels, qui ne cessent de crier au loup. On a vu combien de vidéos ces dernières semaines de jeunes crapules, tabarnouches, qui écartent la police. Fait qu'on n'appuie pas les polices. Ça fait en sorte que les policiers viennent un petit peu frus. Est-ce que certains ont pensé de se venger? Peut-être. Là, il va falloir revenir ça à la pièce. J'aime des propos de M. Daguerre hier. Il n'y a personne qui va être magicien, là. Ça va se réparer un par un. Ça va se réparer à la pièce, puis arrêter de vouloir que tout ça s'arrange d'un coup sec. Là. Il faut que ça s'arrange. On ne veut pas ça de personne. Mais je ne suis pas sûr que c'est juste dans le cours de la police, moi.
Roger, est-ce que ça manquait de substance, cette sortie-là de Fadi Daguerre? T'sais, il est sorti, il a dit « il va falloir être patient », mais il me semble qu'il n'y avait rien. T'sais, il n'y avait pas de en tant que tel, d'action déjà prédéterminée. Il n'y avait pas de nouvelles sur les sanctions et l'enquête sur les policiers. Ça m'a paru une sortie pour faire une sortie. Ça a été maladroit, à mon humble avis.
Ben, est-ce que c'est eux qui ont calé cette demande-là ou c'est parce qu'ils se faisaient convoquer devant la commission? J'ai plus l'impression, Jeff, que c'est la deuxième option.
Okay.
Alors, il est comme obligé de rendre des bilans à étapes, mais les réponses ne sont pas encore tous obtenues de ça. Reprenons l'exemple de l'autopsie du monsieur qui s'est fait tuer dans l'histoire de Pornhub. Là. Mm-hmm. L'autopsie, dans les heures qui suivaient, était faite. Là. Mais avant que tu rendes ça public, ça prend du temps. Puis c'est même pas encore rendu public par la police. Alors, il va de même pour cette enquête-là. Les policiers veulent aller au fond en ce moment. Est-ce qu'il y a plus que l'équipe qui était en service là-bas qui tolérait des actes de violence un peu envers certaines communautés? Moi, j'ai envie de te dire, ça prend un petit peu de temps, mais ça prend de la patience, mais j'entendais des commentaires de certains gens de la communauté hier, je les comprends, mais ils veulent que ça arrête du jour au lendemain. Hey, deux secondes, là. Vos jeunes, vos kids, là, savez-vous ce qu'ils font le soir dans les rues, là? Savez-vous avec qui ils se tiennent le soir? Ils demandent à la police d'être parfaits dans la rue alors qu'ils ne sont même pas conscients des actions que leurs enfants font en ce moment. Tu sais, c'est là que c'est triste un petit peu. Je ne pense pas que c'est juste dans le cours de la police qu'on va devoir ramener le contrôle. Ils doivent partir de la maison. Je le sais que c'était logique d'être dans des pays à un moment donné où est-ce que tu avais la chaleur, le loisir, la familia qui était toute là avec toi. Mais là, on vient ici, il y a des règles en communauté ici maintenant, puis je pense que certains devraient les réappliquer, que ce soit des principes religieux ou d'autres principes, mais on le fait pour le bien-être. Si notre terre d'accueil est le fun au Québec, au Canada, c'est parce qu'on a des bons principes. Il faudrait peut-être qu'on les ramène. Mais quand tu vois qu'ils ne sont pas respectés, ça amène une autre dimension, je vous le dis. C'est même pas les criminels qui se sont plaints, qui ont perdu des cheveux, là. C'est pas eux autres qui se sont plaints. C'est les policiers qui ont dit, hey, les gars, vous allez trop loin, les filles, vous allez trop loin. Ça fait en sorte que là, on va tous passer pour des racistes. Et c'est malheureusement le fait qu'il faut qu'on se défende un petit peu en ce moment. Puis je veux même pas te défendre l'indéfendable, là. Trompez-vous pas, là. Mais je pense que c'est un par un, la théorie du petit pas qui va changer des affaires. J'aurais aimé entendre, moi aussi, hier, Jeff, de grands principes théoriques de la part de M. Daguerre, mais ils sont pas encore en place. Puis il dit deux choses au moins. Il parle d'un côté, puis de ses intentions de la bouche sortent de la même façon. Par contre, il va falloir être patient un petit peu, je pense, avant que ça se règle.
Alors, j'ai fait long, on termine avec ça. Stéphane Fesplouf, qui était le numéro 2 des Hells Angels à Montréal, est porté manquant dans un article de Félix Séguin qu'on peut voir ce matin dans les journaux de Québecor. On nous mentionne qu'il a assisté à certaines rencontres dans les derniers jours, plus précisément dans un restaurant de Saint-Eustache. On parle d'une rencontre mystérieuse avec des Hells Angels. Et là, il serait porté manquant depuis. On a retrouvé son véhicule et ce qu'on a comme information, c'est qu'il aurait peut-être fait quelque chose qui était inacceptable pour l'organisation. Donc, il a mis dans le trouble l'organisation ou il a volé l'organisation et ce serait la raison pour laquelle on n'a plus de nouvelles de lui. C'est pas le seul qui est recherché, là. Il y en avait un plus jeune aussi, le fils de David Carroll, Nicolas David Carroll, qui est recherché depuis plusieurs mois, mai 2025. On avait retrouvé son Mercedes, puis finalement, lui, on ne l'a pas retrouvé. C'est-tu des gens qui sont actuellement dans le fleuve Saint-Laurent coulés dans le béton?
En tout cas, ils ont trouvé des méthodes assez discrètes maintenant pour les faire disparaître, je peux te le dire. Le modus, la façon qu'on nous voit, la façon de faire décrite dans le journal ce matin est vraiment similaire à certaines purges internes du côté des Hells Angels. Si on t'a entré dans un club, ceux et celles qui t'ont parrainé ont la responsabilité après ça de t'encadrer. Et s'il arrive une gaffe à un moment donné ou quelque chose qui se produit, t'as des sanctions très sévères qui peuvent être apportées. Mais quand on décide, puis qu'il y a un petit vote qui se prend de se débarrasser de toi, ceux qui t'ont introduit doivent te faire partir. Alors, les meetings qu'ils ont eu avant correspondent en tout point avec les meetings que juste avant qu'ils disparaissent, on n'a jamais retrouvé son corps. Mario Bergeron à Québec est pareil, dans la même situation. J'en aimerais un autre aussi, des Hells de Québec, dans la même situation, alors qu'il est en vacances. Il est parti avec des gens, il n'est jamais revenu. C'est à ce moment-là, eux autres, ils font un ménage assez à l'interne. Mais c'est du sale boulot parce que c'est ton chum que tu vas devoir éliminer toi-même. C'est toi qui nous l'amène dans le club. C'est toi qui le fais partir aussi. Fait que ça, c'est la méthode, je dirais, un peu plus clean, mais très, très sauvage quand même entre eux qui ont travaillé, de nettoyer leur système. Mais effectivement, ça ressemble à ça en ce moment. On va devoir attendre parce qu'on va trouver son corps ou on ne retrouvera jamais son corps. Mais c'est la famille là, qui va donner des réponses finales à ça.
Avec du recul, là, parce que tu as eu une longue carrière là, comme policier, c'est-tu si difficile que ça, disparaître pendant des années, puis ne plus jamais redonner de nouvelles? Est-ce que ces gars-là ont ramassé un max de pognon, puis je sais pas moi, ils vivent leur jour en Australie, mettons, c'est-tu possible?
C'est possible, mais c'est très, très, très difficile parce que, tu viens de dire, ça coûte beaucoup d'argent, tu es obligé de vivre sur une nouvelle identité. Fait que tu as plusieurs critères à avoir là-dedans. Il y en a un que c'est arrivé comme ça, un membre des Hells de Québec qui a quitté, mais il était devenu membre au Brésil. Alors, c'est là que c'est difficile, mais là-bas, c'est parce qu'il était parrainé par une nouvelle équipe. Il a vécu qu'une nouvelle équipe. Il a été recherché toute sa vie jusqu'à ce qu'il meure d'un cancer là-bas. C'est pour ça jusqu'à ce qu'il décède. Sinon, on ne l'aurait jamais su, mais c'est très, très, très difficile et c'est très coûteux à faire. Surtout, mais ça, Yannick, dans les réalités de 2026, les médias sociaux, les cartes de crédit, les comptes bancaires, tout est informatisé en ce moment. Alors, quand tu t'installes dans une enquête quelconque, tu arrives à retracer même les pires criminels. Ils ne sont pas revenus au Québec, à Albovin puis Pictourmel, mais regarde, ils ont été retracés de ces façons-là un petit peu par le travail efficace des enquêteurs qui traquent ces gars-là. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est un peu la même situation. C'est très, très difficile. Ça arrive, mais c'est très, très, très rare. Tôt ou tard, il y a quelqu'un qui les dénonce, qui se rend compte que ça ne fit pas. Puis après ça, ben, quand ça fait notre affaire, on s'en va y chercher, mais ça dérange qui, sauf la police? C'est souvent ça qui est l'affaire. Ça ne dérange pas grand monde, souvent, sauf la police.
Roger Ferland, merci.
Bonne journée à vous. Bye-bye, gang.
Salut.
Roger Ferland, l'ex-enquêteur au service de police de la Ville de Québec, qui était avec nous. Il est maintenant enseignant en technique policière au cégep Gardneau. Si tu avais trois nouvelles à nous apprendre aujourd'hui, Max, ce serait quoi?
Bien sûr qu'on vient de parler quand même de deux des nouvelles importantes avec Roger. Autrement, puis bon, c'est peut-être un petit peu moins intéressant considérant qu'on a eu déjà le sondage léger, le journal TVA hier, mais ça vient un peu confirmer ce qu'on avait. Sondage Synopsis La Presse en politique provinciale, où on retrouve à peu près les mêmes chiffres, c'est-à-dire le Parti québécois en tête à 30 %. C'est 4 points devant les libéraux à 26. La CAQ qui ferme le podium à 20 %. Les conservateurs sont à 15. Québec solidaire à 9 %. La proportion d'indécis qui est assez élevée à 20 %. Dans la grande région de Québec, c'est le PCQ qui mène avec 34 %. Quand même une bonne marge devant le Parti québécois à 22 et la CAQ à 21. Pendant ce temps-là, à travers le Québec, chez les francophones, ben c'est le PQ là, qui a vraiment une bonne avance avec 37 % des appuis. La première ministre du Québec, Christine Fréchette, convoque deux cellules de crise pour se préparer face à l'entrée en vigueur de nouveaux tarifs américains la semaine prochaine. D'abord, une douzaine d'organisations vont participer demain à une première cellule de crise économique où on doit, entre autres, là, évaluer les conséquences que pourraient avoir les nouveaux tarifs sur les entreprises, l'économie du Québec. Et pour ce qui est de la deuxième, c'est vendredi que ça va se passer, où là, c'est vraiment plus pour le milieu agricole, avec, entre autres, l'Union des producteurs agricoles et les producteurs laitiers du Québec. Un peu en lien avec tout ça, le ministre responsable du commerce Canada-États-Unis, Dominique Leblanc, et le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, qui pourrait présenter une entente à Donald Trump lundi pour obtenir son approbation avant l'entrée en vigueur de nouveaux tarifs. C'est une source qui a indiqué à la presse que conclure un accord le 17 août, au plus tard, pour laisser 24 heures au président pour la considérer, c'est le calendrier que se sont fixés les négociateurs au départ. Et là, c'est intéressant ce qu'on peut lire ce matin dans le Globe and Mail. Janice Charrette, qui est la top là, des négociations là, pour le Canada, la négociatrice principale, elle aurait prévenu Washington que si le 19 août, il n'y a rien de conclu encore comme deal, ben ça pourrait amener les négos dans un précipice. En gros, elle dit, à partir de ce moment-là, on n'aura plus le contrôle sur les premiers ministres qui pourraient commencer à perdre patience. On n'aura plus le contrôle sur la population non plus qui pourrait commencer à perdre patience. Puis ça pourrait amener tout le monde dans des négociations beaucoup plus difficiles, donc, à suivre. Et je termine avec...
Je comprends qu'on mette nos culottes, Jeff, là, mais c'est parce qu'on n'est pas en position de force par rapport aux États-Unis. Là, puis il y a des milliers d'emplois qui sont en jeu au Canada. Donc, de dire, si c'est pas réglé, il va y avoir des ministres provinciaux qui vont être mécontents, c'est pas une...
Le seul endroit.
C'est comme un caniche qui te jappe après alors que t'es un, je sais pas moi, un beau gros golden tata. Là.
Ben, quand j'écoute les spécialistes, le seul endroit où on a vraiment un rapport de force avec l'aluminium.
Ben oui.
Parce que les États-Unis n'ont pas l'énergie pour
produire
l'aluminium.
Ils n'ont pas cette qualité-là non plus.
Sinon, pour le reste, non. En effet, là, on n'est pas en position de force à l'heure actuelle. Puis, tu sais, j'ai hâte de voir comment notre économie va se transformer à la suite des négociations. Tu sais, moi, je crains beaucoup là, pour le milieu du bois d'œuvre.
Bois d'œuvre, aluminerie, 100 000 jobs au Québec quand même là, qui dépendent des décisions qu'ils vont prendre dans les prochains jours. On a jusqu'au 19. Max, au sport?
Au sport, ben, les Capitales de Québec qui continuent de bien aller. Victoire de 12-4 face aux Rocks de Brockton au Stade Canac. La série qui se poursuit ce soir pour les Blue Jays. Ben, ça va bien aussi. Victoire de 5-3 hier face aux Red Sox. Troisième match de la série ce soir. À l'Omnium Banque Nationale, on est rendu à l'étape des demi-finales. Raphaël Yodar va affronter Naki Chama, alors que dans l'autre duel, Leonard Tien va affronter Ben Shelton, qui est pas mal celui qui est favori en ce moment pour la suite.
L'application Boulevard 102.